Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Donc à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous parle de technologie, d'internet et de gadgets, où on vous donne l'enthousiasme de l'actu tech et où on vous la simplifie suffisamment pour que même votre grand-mère puisse comprendre tout ce qui se passe dans ce monde merveilleux. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec mes camarades de Niptech, comme à peu près tous les deux mois maintenant, ça va presque devenir une tradition. Benoît se joint à nous dans le Rendez-vous Tech pour commenter l'actu. Comment vas-tu, Benoît ?
Salut, tout va bien. Très, très heureux d'être là, effectivement, et vive les traditions.
Et on est aussi avec un nouveau venu de... Enfin, un nouveau venu. Il fait partie de l'équipe de Niptech depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il nous rejoint dans le Rendez-vous Tech. C'est Johan Cohen de Niptech. Comment vas-tu, Johan ?
Ça va très bien, Patrick. Merci pour cette invitation et de nous recevoir ce soir.
Bah écoute, ça fait très plaisir. Comme on le disait avant de lancer l'enregistrement, j'avais l'impression en fait que t'étais déjà venu dans l'émission parce que bon, il y a eu plusieurs personnes de Niptech qui sont venues et comme je vous écoute en plus toutes les semaines, je me rendais pas compte que t'avais jamais été dans cette émission.
On a cette impression de se connaître, de proximité. Ça, c'est grâce à la magie du net.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai sur le net et c'est encore plus vrai sur les podcasts. Moi, j'ai plusieurs fois eu des rencontres avec des gens et je savais plus si je les avais vraiment rencontrés dans la vraie vie ou si j'avais déjà fait des émissions avec eux, simplement parce que je les écoutais régulièrement et ils m'écoutaient régulièrement. Et il y a une telle proximité dans les podcasts quand on écoute une émission régulièrement que c'est vrai qu'on se rend plus compte. Donc, chers auditeurs, j'espère que cette impression est là pour vous aussi, qu'on réussit notre boulot de justesse dans la proximité. On va dire ça comme ça. Bon, donc vous allez bien, messieurs, vous êtes prêts à commenter les affaires Motorola, Dropbox, Microsoft qui se réorganise complètement ?
Ouais. Ma foi, moi, en tout cas, voilà, bouillantissime. Pareil.
Ok, eh ben écoutez, on va se lancer alors, on va pas attendre un instant de plus. Ah, j'ai oublié de dire qu'on est en juillet et que c'est l'épisode numéro 115. Donc... premier sujet qu'on va vous traiter dans les trois infos à retenir, c'est les rumeurs sur le Moto X. Alors le Moto X, c'est pas Speed Racer en moto. Vous savez, il s'appelle Driver X, l'ennemi de Speed Racer. Je ne sais pas si vous avez vu le film des frères Wachowski. Non, ok, j'ai fait un bide.
T'as une culture qui est beaucoup trop étendue pour la nôtre, là.
Bon, ok. Donc, Moto X, c'est le prochain téléphone de Motorola. Et alors, c'est pas forcément le plus gros sujet tech de ces 15 derniers jours. Encore que l'actu s'est un petit peu calmé. On sent bien que c'est l'été et qu'il fait chaud, mais c'est pas forcément le plus gros sujet tech. Mais j'ai trouvé qu'on parlait énormément d'affaires gouvernementales ces derniers temps et j'ai voulu parler un petit peu plus de choses vraiment terre à terre presque dans le domaine de la tech, donc du matériel, de la technologie, des choses enthousiasmantes. Donc j'ai choisi de commencer avec ce fameux Moto X. Donc comme vous le savez peut-être, comme vous l'avez peut-être entendu, Motorola a été racheté par Google. Motorola, le fabricant de téléphones légendaire, a été racheté par Google il y a, ça fait quoi, un peu plus d'un an maintenant? Quelque chose comme ça?
Ouais, je pense un peu plus. Ouais.
Ouais, ça fait quelques temps et ils ont sorti des téléphones entre-temps, mais là, on commence à arriver au bout de ce qui avait été prévu avant le rachat par Google. Alors évidemment, tout le monde se demande ce qu'ils vont faire, ce que Google va faire avec Motorola. Est-ce qu'ils vont leur donner des avantages, des privilèges par rapport à leur OS mobile d'Android? Et on commence à avoir une petite vision de ce que ça peut donner avec le fameux Moto X, qui est le prochain téléphone de Motorola qui devrait être disponible en août. et dont on a vu quelques clichés volés, comme on en voit souvent dans ces domaines, avec les machines très attendues, et surtout, surtout, une vidéo de du fournisseur d'accès Rogers Wireless, qui est au Canada, qui est une présentation de l'appareil qui n'est pas encore officielle, mais qui a l'air quand même plutôt pas mal foutu et plutôt crédible, et qui détaille certaines fonctionnalités de ce fameux Moto X. Est-ce que vous avez vu la vidéo, les gars ?
Alors, je sais pas moi si j'ai vu la fameuse vidéo dont tu parles, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont été supprimées. Mais j'ai vu quelques vidéos, effectivement, là-dessus, et c'est vrai que ça a l'air plutôt bluffant comme... comme système.
Ouais, comme fonctionnalité. Ouais.
Moi, j'attendais que tu le décrives. Je pensais que ça serait encore mieux.
Oui, alors je vais le faire. La fonctionnalité la plus intéressante dont il parle, c'est le Always On Google Now. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Always On Google Now ? Ça veut dire que vous connaissez Google Now et vous connaissez le système avec lequel fonctionnent les Google Glasses, c'est-à-dire qu'on tape un petit peu sur les lunettes et on dit « OK, Glass » et on pose une question. Donc là, les lunettes reconnaissent la commande « OK, Glass » et vont comprendre la question de la même manière que si on posait la question à Google en le tapant, sauf que là, il y a une reconnaissance vocale. Eh bien, pour le téléphone de Moto X, cette fonctionnalité serait activé, et non seulement activé, mais en plus, le téléphone écouterait en permanence ce qu'on dit. Donc, ça veut dire qu'on pourrait à n'importe quel moment, il est posé quelque part, et si on lui dit « OK », je ne sais plus quelle est la formulation, mais dans la vidéo, je crois que c'était « OK, Google Now ».
Tout à fait.
Oui, c'est ça, pardon, oui. J'étais en train de bâiller parce que je suis un peu fatigué. J'espère que ça ne s'est pas entendu. Donc, on dit « OK, Google Now, quel temps fait-il demain ?» Et là, il comprend la requête, il l'analyse et il nous répond en parlant, de la même manière que le ferait Google Now sur Chrome maintenant qui fonctionne, ou sur Google Glass. Donc, c'est une fonctionnalité plutôt intéressante. Là où Siri commence à peine à avoir des rumeurs de capacité de fonctionnement offline, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être connecté à Internet, au moins il reconnaîtrait ce qu'on est en train de dire, au moins pour la dictée vocale. Google le fait depuis très longtemps avec sa reconnaissance vocale. Là, Google irait encore plus loin en faisant une sorte d'assistant à qui on peut parler à n'importe quel moment. Alors, ça existe déjà dans d'autres machines comme la Xbox. Ce genre de technologies qui vont être implémentées, qui sont déjà implémentées d'ailleurs. Il y a d'autres produits qui fonctionnent de cette manière, mais sur un téléphone mobile, sans doute surtout pour des questions de batterie, je dirais, on n'avait pas encore vu ça. Des questions de technologie aussi, bien sûr. Ça vous intéresse, une fonctionnalité comme ça, ou c'est un petit peu gadget, à votre avis ?
Bon,
Benoît, vas-y.
Pour moi, alors, c'est clairement le futur de l'interface machine. Je veux dire, une des choses qui énerve avec Siri, et tu l'as dit fort justement, c'est qu'il faut attendre, c'est long, ça prend des secondes, ça part à un serveur, on ne sait pas où. C'est pas une bonne expérience. Siri, c'est un peu un bide. C'est joli, mais c'est un gadget. Par contre, quand on arrivera à tout de suite la reconnaissance sur la machine et toujours à l'écoute, alors là, oui. Et pour moi, dans 5 ans, on ne se posera même plus la question. Ça sera le standard pour tout. Et bon, bravo à Microsoft d'avoir montré le chemin et d'avoir essuyé un peu les plâtres. Mais,
avec la Xbox, tu veux dire, ou
oui,
tu parles de Google.
Oui, exactement, oui. Oui, sur les téléphones, ils auront peut-être encore un petit peu de chemin à faire.
Ouais.
Mais on en parlera peut-être après. Mais effectivement, moi, je prends tout de suite. J'ai aucun doute sur la sécurité, etc. De toute manière, Google, c'est tout de nous. On est espionnés de partout. On en a parlé très bien il y a 2 semaines. Alors, allons-y gaiement.
Ouais, d'accord. Johan, toi aussi, c'est aussi enthousiasmant.
Ça allait être en gros ce que j'allais dire, c'est-à-dire que enthousiasmant, parce que oui, le fait que écran en veille, juste le regarder, puis l'heure s'affiche, je trouve ça très sympathique. Il y a pas mal de choses, à mon avis, qui le seront aussi en termes de fonctionnalité. Là où j'aimais des réserves, c'est ce que vient de dire Benoît, à savoir le côté vie privée un petit peu, mais bon, on va peut-être pas forcément revenir là-dessus, parce que s'il scanne en permanence ce qui est dit, ce qui se dit autour de nous, il y a clairement des questions à se poser. Et puis, je sais pas, moi, en tout cas, je suis vraiment utilisateur d'Android et de Google Now aussi. Je trouve que les fonctionnalités en français, elles sont pas encore terribles. Alors, je sais pas si ça sera le cas aussi dans cette nouvelle version de Moto X.
Ouais, alors effectivement en français c'est pas forcément idéal, mais en anglais et tu le disais très bien Benoît, enfin bon, Google Now fonctionne super bien et ta comparaison avec Siri est d'autant plus apte que même Google Now dans son état actuel est beaucoup plus intéressant que Siri. On en parlait dans le upload je crois de la semaine dernière. Si je ne m'abuse, et c'est vrai que Siri, c'est un mauvais choix technologique, je pense. Aujourd'hui, on est tous d'accord, ça fonctionne pas comme la promesse qu'on nous avait fait au moment où il a été présenté. Ah non, c'est, et là, ouais, et le décodage local est clairement une meilleure solution, en tout cas aujourd'hui. Pardon, Benoît.
Oui, je veux dire, le mauvais choix technologique, vous pouvez tout de suite pointer vos regards vers une boîte qui s'appelle Nuance, qui est vraiment des mastodontes dans l'analyse vocale et qui, dès le début, m'avait semblé un choix bizarre. Alors, on ne sait pas vraiment qui est derrière Siri. Hein. C'est, je crois pas que
si,
ce soit
a priori,
officiel.
C'est Nuance, mais le truc, c'est que Nuance...
Ils l'ont dit officiellement ?
Oui, oui, mais non, pas officiellement, mais on le sait. Mais le truc, c'est que Nuance fonctionne très bien en local aussi, hein. Ça, c'est pas obligatoirement en déporté. Mais bon,
oui,
bref,
mais
ça c'est Siri,
culture,
mais.
Ouais.
Mais effectivement, l'idée que les appareils nous écoutent en permanence pour être prêts à répondre à nos questions. Alors, sans rentrer dans les questions de vie privée et de problèmes que ça peut poser, je pense qu'on les a largement évoqués ces derniers mois. Si on parle juste du point de vue technologique, moi, je pense qu'effectivement, c'est très, très, très enthousiasmant. J'avais fait un papier sur patrickbeja.com il y a quelques temps. Je sais plus quand exactement. Ça doit faire un an, peut-être un petit peu plus, où je disais justement que l'interface... voilà, je l'ai retrouvé. C'était en 2011. Oula, ça fait déjà 2 ans. Où je disais que l'interface ultime, c'était qu'il n'y ait pas d'interface du tout. Mm-hmm. Et que, quelle que soit la simplification de l'interface, que ce soit iPhone ou pas, les vraies personnes normales, qui devaient quand même passer du temps à apprendre quelque chose, n'en tireraient pas tous les bénéfices. Alors, à mon sens, effectivement, à un moment, là, on regarde peut-être un peu plus loin, mais le fait de pas avoir d'interface, de simplement pouvoir parler à sa machine, c'est l'interface ultime. Et là, c'est un pas de plus sur ce chemin. Et effectivement, pour moi, c'est un truc hyper enthousiasmant. J'adorerais que mes machines puissent m'écouter et répondre à mes questions sans que j'ai besoin de taper des trucs ou d'appuyer ou de je sais pas quoi. Maintenant, il y a plusieurs problèmes, même en dehors de la question de la vie privée. D'une part, il faudrait qu'ils reconnaissent ma voix à moi et qui répondent pas aux requêtes des autres personnes qui sont soit dans la pièce, soit bon. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des systèmes du genre si tu le poses sur la table, il faut qu'il soit posé sur la table avec face vers le haut, ou s'il est face vers le bas, ça fonctionne pas, etc., etc.
Peut-être Benoît, il pourra plus nous en dire côté reconnaissance vocale, mais je crois qu'on peut arriver à filtrer une voix très particulière et pouvoir répondre qu'à cette voix-là.
Ah, je suis sûr que c'est possible, oui.
C'est trop lourd, malheureusement. Pour que ça soit... Alors, ça viendra, mais pour le moment, je ne crois pas qu'ils soient capables de le faire. En tout cas, les gens qui ont Glass ont pu témoigner que si on passait à côté en disant « Ok, Glass, c'est quelque chose »,
c'est ça.
Tout le monde, c'était pour tout le monde, quoi.
Disons qu'à terme, ça sera sans doute nécessaire. Il y a d'autres problèmes, comme par exemple les questions de batterie que j'évoquais tout à l'heure. C'est effectivement un vrai problème, à mon avis. Pour qu'ils t'écoutent en permanence, j'imagine qu'ils ont trouvé des moyens pour alléger la charge sur la batterie, mais à mon sens, ça me paraît difficile qu'il n'y ait pas un impact. Donc voilà, bon, c'est ce genre de technologie qui devrait être disponible Oui.
J'ai une question alors, Patrick, pour toi. Maintenant, on a la voix, je suis d'accord que c'est très bien. On sait déjà que Samsung, par ailleurs, fait la même chose avec le regard, pour savoir si tu regardes ton téléphone ou pas. Mm-hmm. On a aussi du contextuel qui est via où tu es, ta location géographique. Ça,
la localisation, oui.
La localisation, exactement. Maintenant, on pourrait imaginer même que les sensors disent « Oh, ben voilà, Patrick, ça marche un petit peu lentement aujourd'hui, je vais te mettre de la musique peut-être un petit peu. » Jusqu'où tu serais prêt à aller? Tu dis « J'aimerais qu'il n'y ait plus d'interface. » Jusqu'où tu irais, toi?
Ah, mais moi, jusqu'à... T'as vu Iron Man?
D'accord. Bah, okay. Voilà. Encore deux ou trois étapes, quoi.
Oui, non, non, mais si. C'est-à-dire que l'idéal pour moi, c'est le compagnon. Tu vois, comme ça, t'as même plus besoin d'amis. C'est parfait. tu dis juste, ah, je me sens pas trop bien. Et là, il te dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe, Patrick? Ouais, les autres, de toute façon, ils te comprennent pas. C'est moi qui peux t'écouter, te comprendre, tout ça. Les gens sur Twitter, ils sont pas vraiment tes amis, etc., etc. Moi, je suis.
Je sens l'angoisse monter chez les auditeurs, là, face à ce que tu es en train de nous décrire.
Non, mais plus sérieusement, disons que la machine, si je peux à n'importe quel moment, tu vois, j'ai mon téléphone dans la poche avec les écouteurs, comme c'est souvent le cas, si je peux simplement lui demander des trucs et qu'il me répond, lui dire tu mets ce que promet Siri, ce que promettent tous ces systèmes, tu peux. Par exemple, tu lui dis Google Now, tu peux me déplacer mon rendez-vous de tel jour à tel jour. Est-ce que tu peux envoyer un message à machin pour lui dire que je pourrais pas venir? Évidemment, si tu lui parles naturellement, ça va pas marcher. Tu vois, aujourd'hui, la technologie n'y est pas encore. Moi, j'aimerais que ça y soit à un moment. C'est dans cette direction que ça veut aller. Moi, le jour où j'aurai même plus d'écran sur mon ordinateur, entre guillemets, je serai content. Pour, tu vois, mon ordinateur, genre mon téléphone, quoi. Bon, il y a toujours des fonctionnalités qui ont besoin d'un écran. Évidemment, je suis pas en train de dire le contraire, mais je veux dire.
Tu es en train de préparer le fait qu'il n'y ait plus de téléphone et plus qu'une iWatch. Je te vois venir prendre comme une maison.
Pas du tout. Non, mais oui, effectivement, pour moi, si pour certaines utilisations, il faudrait qu'il y ait une intelligence artificielle. Là, on parle même plus juste de reconnaissance vocale, mais une intelligence artificielle poussée, ça serait intéressant. Il y a d'autres fonctionnalités qui ont été présentées dans cette vidéo de chez Rogers pour le Moto X. C'est le fait, par exemple, de donner deux petits mouvements de poignet pour lancer l'appareil photo. Pourquoi pas ? Ça me paraît un petit peu plus gadget. Donc, on lance l'appareil photo comme ça. Et puis, pour prendre les photos, il suffit d'appuyer sur l'écran n'importe où. Donc, c'est pas mal. C'est une interface encore simplifiée qui nous permet d'aller plus rapidement à ce qu'on veut faire. C'est sympa, surtout pour les photos où on veut.
Moi, sur l'histoire du geste, je suis pas forcément fan. Parce que je trouve c'est, ouais, parce que ce geste-là, enfin, je l'ai vu aussi dans la vidéo, ce geste-là, il peut arriver dans ta poche. Je pense que si tu mets ton téléphone et que tu marches, je pense que tu peux arriver très bien possible, à reproduire ce geste. J'ai peur ensuite que, voilà, tu puisses prendre en wagon des photos et que tu te... Enfin, je suis pas fan du tout.
Ouais. Bon, et puis il y a un autre problème, en fait, c'est que très facilement, avec ce geste, tu peux envoyer ton téléphone balader. Ça peut mettre le Moto X sur le sol. Enfin, bon, bah voilà, donc pour la présentation du Moto X, on en saura très certainement plus d'ici quelques jours, quelques semaines. Si vous êtes intéressé par cette bestiole, si vous êtes fan d'Android, peut-être gardez un œil sur le Moto X, il vous intéressera peut-être.
Ce qui m'avait impressionné, c'est de voir que Eric Schmidt l'avait, qui est un gars assez connu pour pas trop aimer les téléphones. Hein. C'était pas un fan même. Enfin, il avait Android parce qu'il fallait bien, etc. Et là, il a l'air assez content. Enfin, il se montre avec. Ça, pour moi, s'il y avait qu'un seul détail qui me dit que ça peut être un outil vraiment intéressant, un bon appareil, ça serait celui-là.
D'accord. Bah, en plus, c'est qu'une vidéo, hein. Ça se trouve, il y a plusieurs fonctionnalités de ce type-là qui sont intéressantes et innovantes. C'est vrai que sur les téléphones Android, j'ai pas vu énormément de fonctionnalités qui m'ont donné envie. Celle-là, ça me donnerait envie. Mais bon. DBX. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est pas la suite de Dragon Ball Z. ça vous fait penser à quoi, DBX ? Bon, vous avez vu les
c'est un nom barbare de développeur, ça, ouais.
Oui, vous avez lu les notes de l'émission. C'est, j'allais dire, Dragon Ball X. Et oui, on ne se refait pas. Donc, c'est Dropbox. C'était la conférence de Dropbox. Alors là, on parle un petit peu plus de sujets qui font plaisir aux développeurs et aux entrepreneurs et aux start-upers. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez suivi cette histoire du développement de Dropbox avec intérêt, non?
Alors, ouais, on en a parlé depuis longtemps de Dropbox, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, j'ai même pas suivi en particulier.
C'est vrai. Non. Mais tu me déçois, Benoît. Là,
oui,
je suis...
tu vois, comme quoi.
Eh ben, en fait, c'est une leur conférence qui sera désormais annuelle pour les développeurs, où ils ont annoncé en fait des API pour les développeurs, pour en quelque sorte, pour schématiser, j'allais dire remplacer iCloud, on fait tout le temps la comparaison avec Apple, c'est assez terrible parce qu'il y a d'autres systèmes du genre, mais c'est-à-dire qu'ils veulent fournir aux développeurs des outils pour leur permettre de synchroniser leurs données de pour leurs utilisateurs très facilement et très simplement. Et évidemment, on sait que Dropbox a une grande expertise pour la synchronisation des données et des documents surtout, et donc ils vont appliquer cette expertise aux données. C'est-à-dire que si moi je suis développeur, pour ceux qui connaissent pas Dropbox, c'est un système qui vous permet d'avoir un répertoire sur votre ordinateur qui sera synchronisé à travers tous vos ordinateurs et vos devices, qu'ils soient iOS, Android, Windows Phone, etc. Donc, si moi je suis développeur et que je veux utiliser ce système, je vais implémenter certaines fonctionnalités dans mon application et les données de mon application vont être sauvegardées sur le compte de l'utilisateur, mais dans un endroit caché. Et quand mon utilisateur va ouvrir mon programme sur un autre appareil, eh bien les données seront synchronisées. Par exemple, je dis les choses complètement au hasard. Imaginons qu'il y a un lecteur de podcast, un podcast manager, un podcast player. Eh bien, le développeur pourrait utiliser les comptes Dropbox de ses utilisateurs pour synchroniser les listes de téléchargement, l'endroit où il en est dans chaque podcast, etc., etc., et avoir une synchronisation sur tous les appareils. Alors, ce type de services sont disponibles avec des outils comme iCloud, mais on sait que depuis le lancement d'iCloud, il y a de gros problèmes. Ça fonctionne pas aussi bien que ça devrait. Et on se rend compte que ce type de problème de synchronisation, en particulier pour les données, c'est un immense casse-tête. Parce que synchroniser un document, encore ça va, au pire tu peux garder les deux versions, au pire du pire si tu arrives pas bien. Mais avec les données, si tu gardes un appareil, que tu ouvres ton programme, tu mets à jour les données, puis tu le refermes et tu vas sur un autre appareil, tu rouvres les données, etc., pas de problème. Mais si tu commences à avoir un appareil qui était ouvert, qui a synchronisé des morceaux et puis qui est passé hors ligne parce que tu es dans le métro et puis que tu l'as fermé et qui n'a pas eu le temps de se mettre à jour et que tu rouvres le même programme sur un autre appareil sans avoir synchronisé, etc., ça devient un casse-tête énorme, et iCloud, Apple ne réussit pas à le résoudre. Google y arrive plus ou moins, mais surtout avec des documents. Il gère ça très bien avec des documents. Windows et Microsoft y arrivent pas mal non plus avec leurs documents sur SkyDrive. Pour les données, c'est un immense casse-tête. Est-ce que, à votre avis, Dropbox, qui a vraiment le vent en poupe pour la synchronisation, pourrait réussir à résoudre ce problème ?
Enfin, moi, si je peux intervenir là-dessus, déjà, moi, j'ai été impressionné par les chiffres qui ont été annoncés dans cette conférence. 175 millions d'utilisateurs, plus de 100 000 applications tiers qui utilisent déjà les API Dropbox à travers donc d'autres services qu'ils peuvent proposer, et quasiment 1 milliard de fichiers qui sont enregistrés quotidiennement sur les serveurs de Dropbox. Déjà, rien que là, j'ai eu un effet waouh qui a duré très longtemps.
C'est vrai que 175 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Hein, pour vous donner une idée, je vais plus avoir les chiffres en tête. J'allais dire les chiffres de Twitter, mais je sais plus combien ils en ont aujourd'hui. Google Plus, par exemple, c'est quelque chose qu'ils doivent être à 200 millions à peu près maintenant. iTunes, c'est 500 millions de comptes avec carte bleue. Donc 175, c'est pas du tout ridicule, quoi. C'est même très impressionnant.
Totalement. Là où c'est intéressant, c'est que, enfin, mais tu l'as dit, il y a eu plusieurs éléments qui ont été annoncés. Donc, c'est vrai que l'API DataStore, c'était celle qui était le plus attendue, dans la mesure où auparavant, les applications tiers qui utilisaient l'API Dropbox ne permettaient pas cette fameuse synchronisation dont tu viens longuement de parler. Donc, c'est vrai que là-dessus, à mon avis, tous les développeurs doivent vraiment être très, très contents. Et quelque part, Dropbox devait faire ce pas-là vers les développeurs s'il voulait toujours continuer à garder son leadership dans ce genre de service. Donc, je trouve que c'est un bon calcul qu'ils font, une bonne ouverture. J'attends de voir maintenant ce que les applications tiers vont pouvoir nous proposer.
C'est sûr que Dropbox, en plus pour la blague, certains d'entre vous se souviendront sans doute que Dropbox avait été une des cibles d'Apple à ses débuts, quand ils avaient quelques millions d'utilisateurs. Steve Jobs avait voulu racheter Dropbox. Il avait sorti le grand discours à leur fondateur. Vous savez, Dropbox, c'est un outil qui peut s'ajouter à un OS, mais c'est pas un produit en soi. Et effectivement, ils ont donné tort à Steve Jobs en développant un vrai produit qui a une vraie popularité, et là ils franchissent une étape de plus pour rentrer dans ce cercle. Bon, d'une part ils attaquent évidemment iCloud directement, mais en plus pour rentrer dans ce cercle de la décentralisation des données, c'est-à-dire que les OS ne sont plus aussi importants aujourd'hui, par la force des choses, avec l'arrivée de l'iPhone et l'ère du post-PC. On est tous sur plein d'OS différents, sur plein de devices différents, sur plein d'appareils différents, qu'ils soient Android, Windows, etc. Même sur Google, qui est presque un OS tellement il y a de services. Et les données et la synchronisation de ces données devient presque plus importante que les OS qu'on utilise, les OS sur lesquels les applications sont construites. Donc effectivement, c'est une transformation de leur service qui est subtile pour les utilisateurs finaux, mais qui leur fait gagner en importance encore dans le monde de la technologie en général. Et c'est une très belle ouverture, une très belle deuxième étape pour Dropbox.
Exactement, ouais. En importance et en dépendance. C'est-à-dire, quelque part, ils vont faire dépendre pas mal d'écosystèmes de la facilité de leur API et des applications qui vont pouvoir en découler.
Tout à fait.
C'est devenu presque un synonyme de stocker dans le cloud. Je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, je parle aux gens, je dis, mets sur Dropbox. Mais ce que j'entends par là, c'est sauve-le quelque part, on peut tous avoir accès.
Ouais.
Et c'est fort, parce que c'est vrai qu'ils sont devenus, comme Google-le, etc. Tu sais, cette espèce de graal de tout service, de devenir presque un nom commun. Et eux, ils n'en sont pas loin, à mon avis.
C'est vrai, oui. Alors, il y a très peu de gens que je connais qui n'utilisent pas Gmail. Et à chaque fois que quelqu'un n'utilise pas Gmail, ça, je tique. Tu sais, ça fait genre, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es encore dans... Tu vis dans le passé, comme ça. Et c'est un petit peu la même chose avec Dropbox aujourd'hui. C'est un truc où tout le monde, tous mes amis autour de moi utilisent Dropbox, ils ont un compte Dropbox, et c'est un outil qui est devenu presque indispensable tellement il est pratique, quoi.
Ouais, et même les trois dernières sociétés avec lesquelles j'ai collaboré, tout était sur Dropbox. Tous les documents, pas forcément secrets, mais tout ce qui était à partager, logo, tout ça, sur Dropbox.
Ah oui, c'est sûr, oui. Disons que pour mettre les documents secrets de ta boîte sur Dropbox, faut être un petit peu bizarre quand même, mais ça encore, c'est pas encore le cas. Mais...
Peut-être juste une petite précision par rapport au service Google, justement, de stockage et de fichiers. Ce que tu faisais, la nuance par rapport à iCloud. Moi, j'utilise pas mal Google Music ou, tu sais, tout ce genre de service dans lequel tu peux synchroniser entre multiples devices. C'est plutôt bien foutu, hein, aujourd'hui, ce que propose Google déjà. Hein.
Tout à fait. Mais là, on reste dans le domaine des documents. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent quand tu veux...
Quelle nuance, justement, parce que j'arrive pas encore totalement à saisir la nuance que tu fais, par exemple, par rapport à iCloud, Dropbox et les autres services type Google.
Eh ben, Google te permet de synchroniser des documents, que ce soit les documents Google Docs ou autres, hein, des fichiers. Mmh. Alors, des fichiers sont des images avec sur Google Plus notamment, ce genre de choses. Là où il y a plein de services qu'ils font. Hein, et d'ailleurs, il y a des services qui font ça pour les données aussi. Mais le problème des données est encore un petit peu différent. C'est des données que vont utiliser une application. Comme l'exemple que je donnais, l'exemple des podcasts à synchroniser, l'endroit où tu en es dans le podcast, ou alors, je sais pas, pour prendre un exemple plus simple, dans les jeux vidéo, tu as tes parties sauvées. Tes parties sauvées peuvent être synchronisées entre différents devices. Il y a certains développeurs qui le font. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Tu peux avoir d'autres types de...
Non, d'accord. L'exemple avec le jeu, ça m'a parlé.
et c'est vrai que fondamentalement au niveau de base, c'est aussi des fichiers finalement, mais c'est pas exactement la même, le même type d'utilisation, donc ça change un petit peu le problème. Donc voilà, on souhaite bon courage à Dropbox, effectivement une belle aventure pour eux. Dernière des trois infos à retenir aujourd'hui, quand même le gros morceau, c'est la réorganisation de Microsoft qui a été annoncée il y a quelques jours de ça. Microsoft a il y avait des rumeurs hein, qui couraient depuis un certain temps sur cette réorganisation en profondeur pour adapter Microsoft aux défis d'aujourd'hui. Entre parenthèses, dans leur long blog qu'ils ont posté pour expliquer cette réorganisation, ils précisaient au début que Microsoft a déjà 37 ans. Vous vous rendez compte, 37 ans,
c'est... Ouais. Et en âge de technologie, ouais, c'est...
Mais oui.
Je sais pas combien pour faire 300, ouais.
C'est ça. Ils ont
en
fait, ils ont 3700 ans donc Microsoft. Hein, c'est bien ça. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. Et d'ailleurs, bah tiens, je l'ai mis à la fin des liens. Je posais une question que je vais peut-être poser au début. La première chose en fait, la chose peut-être qui parle au plus grand nombre, c'est que beaucoup de gens estimaient qu'il aurait peut-être fallu mettre Ballmer dehors, Steve Ballmer, qui est encore président de Microsoft. Et ça n'a pas été le cas dans cette réorganisation. Il est toujours à la tête de Microsoft. Il est toujours tout en haut de Microsoft. Est-ce que vous êtes de l'avis qu'il serait temps que Microsoft, enfin que Ballmer tire sa révérence et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous pensez qu'il est quand même toujours à sa place à la tête de Microsoft?
Alors, c'est évident. C'est une réponse que c'est très très facile. Oui, clairement, Ballmer fait du mal à Microsoft. Tous les problèmes... c'est une grosse partie des problèmes viennent de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement politique qui détruit toute opposition, qui est malsain et qui fait de Microsoft une compagnie qui n'est que la moitié de ce qu'elle devrait être. Et moi, je suis très fâché avec Ballmer parce que voilà, Monkey Dance, Developers et tout ça, c'est sympa. Mais à part ça, ça ne fait pas une vision. Et donc, c'est quelqu'un qui nuit à Microsoft activement. Et pour te dire, je partage de temps en temps avec des employés de Microsoft... quand même près du siège central, et c'est un avis partagé, hein, je veux dire.
Je suis sûr qu'il y a des gens de cet avis un petit peu partout.
Mais... Moi, je suis un peu surpris par cette position, parce que en définitive, Microsoft, comme les autres sociétés, ont un conseil d'administration. Si vraiment il était si nocif que ça à la société, pourquoi est-ce qu'ils l'ont maintenu dans ses fonctions?
Parce Donc que ça... tu mets qui à la place quand tu as décapité tous les gens capables qui auraient pu prendre ta place organisation qui est devenue un coupe-gorge, qui est hyper politique.
Moi, je pense que le plus gros coup, c'est faire ce que Apple a fait il y a une quinzaine d'années, c'est refaire venir Bill.
Mais Bill, il sauve le monde. Bill, il a autre chose à faire.
Ouais, mais bon, c'est moi. Enfin, ça me semble. S'il y a une personne à remettre, c'est lui. Ouais. Et là, l'image de Microsoft. Mais vraiment, ça prendrait un énorme coup.
Oui, mais est-ce que Bill Gates aurait vraiment plus d'idées que les autres? Disons que moi, je te trouve un petit peu sévère, Benoît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis. Mais
là, c'était la version gentille, là.
Oula, d'accord. bon, c'est vrai pour donner du fil à ton grain à moudre, c'est ça qu'on dit. C'est vrai qu'il a, par exemple, on se doute qu'il a un petit peu mis dehors Ryozi, qui était l'un des visionnaires, Steven Sinofsky, qui était aussi l'un des visionnaires, etc. Donc, c'est pas facile de le remplacer, hein, pour répondre à Johan, parce que lui, à la base, il est politique et il semblerait qu'il mette les gens dehors quand il commence à prendre trop de place, quand il serait des remplaçants potentiels. Alors, c'est possible, mais moi, je vois pas tout à fait les choses comme ça. Je trouve qu'au contraire, justement, le fait que Microsoft ait déjà 37 ans, ce qui est un âge canonique dans ce domaine, et soit toujours aussi important, alors évidemment ils sont plus aussi importants qu'il y a une dizaine d'années, mais tout de même, Microsoft, donc Windows, reste totalement incontournable, la Xbox a une place énorme, bon, même s'ils continuent à perdre de l'argent, mais enfin, ils ne gagnent pas de l'argent chaque année, mais Windows Phone 8 était une direction nouvelle et intéressante. Ils auraient pu faire une copie d'Android. Windows 8, qu'on l'aime ou pas, et on a eu des débats sur le sujet, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Enfin, il y a des choses audacieuse, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils ne prennent pas de risques, Et surtout, il reste, enfin, il continue à donner des résultats. Microsoft reste l'un des géants de la technologie et du net aujourd'hui. Alors que, si tu veux, c'est, oui, on pourrait se dire Microsoft n'est que la moitié, et on le saura jamais, hein. On peut se dire Microsoft n'est que la moitié de ce qu'il pourrait être. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que Microsoft est peut-être 10 fois plus que ce qu'ils auraient pu devenir si quelqu'un n'avait pas bien géré les choses. Parce que en 37 ans, on a le temps de disparaître. Et surtout, depuis le départ de Bill Gates et depuis l'avènement d'Internet, Microsoft aurait largement eu le temps de devenir complètement une société de seconde zone. Donc, et je trouve que on retire trop le mérite qu'a pu avoir Steve Ballmer dans cette affaire. Alors,
non, t'as raison.
Il mérite d'étouffer tout grain, toi, d'avoir pas de gros succès. Enfin, toi, la Xbox, Bing et tout ça, c'est tout des choses, à mon avis, avec peut-être des entités carrément cassant la société, hein, ce qui avait été proposé à plusieurs reprises, mais qui aurait pu marcher mieux que ça. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense que c'est en dépit de Steve Ballmer plutôt que grâce à Steve Ballmer.
Bon, ça, je pense qu'il y a un autre fait d'armes à lui mettre à son actif, c'est le rachat de Skype, quand même. Ça me paraît être vraiment quelque chose d'important, non?
Je sais pas si c'est au niveau à un tel niveau qu'on pourrait dire. Tu vois, c'est pas comme s'il avait racheté Twitter au début de Twitter, quoi.
Ouais.
C'est certainement un énorme atout stratégique parce que pour la voix sur IP, oui, c'est énorme.
La voix sur IP, l'intégration sur les futurs téléphones et le tout ce qui peut être vidéoconférence et autres multi-device. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de Skype et ils n'en sont qu'au début. Là, ils l'ont à peine intégré, pour ainsi dire. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore.
Je sais pas si je le mettrais comme un fait d'armes au niveau de Bing ou de la Xbox ou de même si Bing n'a pas eu le succès escompté. Et on le dit souvent, même Windows Phone 8, même Windows 8 RT n'a pas eu le succès escompté. C'est évident. D'ailleurs, ils commencent à vendre au rabais les Surface RT. Elles sont à $350 bientôt, puisque la prochaine génération arrive. Mais bon, bref. Revenons à la réorganisation elle-même. Vous avez suivi cette affaire, peut-être, plus précisément?
Oui. Alors ça, je pense que le constat de se dire, le but de la réorganisation, tu me corrigeras, hein, c'est d'arrêter d'avoir des entités Microsoft dans tous les coins qui se tirent dessus. Et donc, ils ont réorganisé en 4 parties. Et le constat initial, il est tout à fait juste. Il faut que les différentes parties de Microsoft travaillent ensemble plutôt qu'un peu les unes contre les autres. Donc ça, c'est un constat qui, à mon avis, est très bien posé. Par contre, je dois dire, je me souviens plus quels sont les quatre piliers de Microsoft maintenant.
Alors moi, j'en ai retenu 3. Il y a les OS, c'est-à-dire Windows 8, Windows Phone et Windows RT, donc toutes les versions OS et les versions entreprises. Donc tous les OS sont réunis ensemble au sein d'un même groupe. Il y a la section entreprise et services, qui est le côté professionnel, qui est évidemment excessivement important pour Microsoft. Et il y a enfin la partie devices, donc appareils dans lequel rentre la Xbox et les autres appareils. Étonnamment, c'est Julie Larson Green qui est à la tête de cette partie device alors qu'elle gérait Windows 8 pendant plusieurs mois depuis le départ de Sinofsky. Donc voilà, c'est les 3 grosses entités du nouveau Microsoft. Et effectivement, l'une des intentions, c'est très très fortement le fait que on réorganise de manière verticale pour qu'il n'y ait plus de gens qui se tirent dans les pattes entre eux. On savait que entre Office et Windows c'était la guerre tout le temps, etc. Donc ça c'est très important. Et puis il y a une autre analyse qui m'a paru intéressante, c'était le fait de dire que Microsoft prend le virage de la consumérisation de l'informatique. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, l'informatique, 10-15 ans on va dire, jusqu'à l'avènement d'Internet et jusqu'à l'arrivée des appareils mobiles, l'informatique était éminemment professionnelle. Et aujourd'hui, Microsoft fait un constat d'évidence, hein, mais qui est quand même ambitieux, c'est que l'informatique se consumérise énormément, ça devient du grand public, et c'est un moyen de réussir à fonctionner mieux pour cette nouvelle donne de la technologie et de l'informatique. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Je ne sais pas. Mais pardon, Benoît. Donc voilà les 3 grands piliers que j'ai retenus.
Ouais, tu avais dit quoi? Alors, il y a OS, apps,
alors, OS,
cloud et devices.
C'est ça, voilà.
D'accord. Non, mais c'est extrêmement bien vu. Maintenant, la question, et je pense que tu as raison de commencer par ça, parce que finalement, et c'est ce que j'ai un peu lu, hein, là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un petit peu son dernier grand chantier, de ce que je comprends, et tout ce qu'on va retenir de lui, ça sera aussi en fonction de est-ce que cette réorganisation va fonctionner, est-ce qu'il va réussir justement à laisser une société capable d'aller de l'avant après que les deux fondateurs historiques se soient un petit peu retirés. En tout cas, c'est la bonne façon de faire. Le gros problème qu'ils vont devoir changer, il suffit pas de mettre des nouveaux noms et puis de touiller un petit peu les chefs pour que ça change. Il faut, à mon avis, quelque chose de plus spectaculaire pour vraiment que les gens commencent à travailler ensemble. Je ne sais pas si on peut faire ça. J'ai un doute, je dois dire.
Moi, de ce que je comprends, donc, Benoît, c'est vraiment une question de mentalité à l'intérieur même de Microsoft, où vraiment, avant d'arriver à réorganiser, on va dire, les chefs de service, il faudrait d'abord s'attaquer à ça.
Une culture,
c'est
très clairement.
Oui, culture d'entreprise. Moi, je pense que la culture d'entreprise est pas mauvaise chez Microsoft, hein. Et l'impulsion qui va être donnée par les nouveaux chefs, par exemple, le nouveau chef des OS, c'est Terry Myerson, qui était le qui gérait la division Windows Phone. Donc, c'est clairement une énergie différente. Il va sans doute y avoir une uniformisation entre tous les appareils, tous les OS. Julie Larson Green, qui était sur Windows et Surface, qui devient la tête des devices et du studio. Donc, elle gère Surface, Microsoft, Xbox, les souris, etc. Les souris, les claviers, les accessoires et Entertainment, ce qui est intéressant. Bon, il y a, à mon sens, du sang qui est aussi neuf qu'il peut l'être. Tu vois, c'est pas non plus que tu peux sortir quelqu'un qui vient de nulle part. Il faut quand même quelqu'un qui travaille chez Microsoft depuis un moment, qui connaît la société, qui connaît la culture. Mais là, c'est des gens qui étaient pas complètement à la tête de la tête. Tu vois, c'est pas qu'ils ont dit bon, toi, avant tu gérais tous les OS, maintenant tu vas gérer les devices. Ils ont pris des gens qui avaient une solide expérience, mais quand même, par exemple, mettre à la tête de tous les OS le type qui gérait Windows Phone seulement, ça me semble relativement audacieux. Donc bon.
Ouais, je ne sais pas si tu as déjà commenté là-dessus ou si tu peux le faire, mais le départ de comment il s'appelle notre ami Don Matrick, qui part de Microsoft pour aller chez Zynga, toi, ça t'a interpellé, ça t'a beaucoup parlé ou bon?
Bon, c'est surprenant, disons que je peux pas trop commenter étant moi-même mon vrai travail étant dans l'industrie du jeu vidéo, je vais éviter de commenter, mais c'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Maintenant, si la réorganisation était déjà en cours, peut-être qu'il s'est dit bon bah c'est l'occasion.
Ça explique,
quoi.
Hein. Il était sûrement c'est pas l'occasion. dans les quatre.
C'est
voilà.
Possible.
Ce qui a de surprenant, c'est le choix de Zynga, non peut-être.
Oh, je sais pas. Tu sais, c'est quand même une grosse société, mais oui, effectivement, je peux pas trop commenter sur le sujet. Donc, donc on va éviter. mais bon, ce qui est clair, c'est que ils lui ont certainement fait un deal qui lui a paru intéressant. Donc. Bon, bah écoutez, d'autres commentaires pour clore la chose ou on passe à la suite?
Ah, on peut aller de l'avant.
Allez, de l'avant. Donc, on a fini nos trois sujets importants. On va parler maintenant des petites news et rumeurs qui nous ont interpellés pendant ces deux dernières semaines. Et évidemment, l'une qu'on ne pouvait pas rater, c'était alors, on peut faire quand même la musique, la marche funèbre. c'est comment? C'est. C'est Adopi, la suspension de l'accès à Internet qui est enterrée. Ça a été confirmé ces derniers jours. Vous ne pouvez plus voir votre accès à Internet coupé, même si vous piratez comme des gros pirates. Bon, évidemment, vous pouvez toujours avoir une
amende.
Une amende, oui, voire plusieurs, et ça ne vous absout pas de vous faire poursuivre en justice par les ayants droit. Mais vous n'aurez plus la coupure de l'accès Internet, ce qui est clairement une. Enfin, je sais pas, moi j'ai levé mon verre quand même au moment où j'ai entendu cette confirmation. Hein. C'était une bonne nouvelle.
T'avais été vraiment un chaud, justement pas partisan, mais pourfendeur d'Adopi, hein, si je me souviens bien, à l'heure où c'était encore un thème
d'actualité. Ouais. Bah, disons que Adopi, le principe d'Adopi, je pense qu'on aurait pu en discuter, mais ce qui était pour moi clairement inacceptable, c'était cette coupure de l'accès à Internet, parce qu'il y avait une vraie méconnaissance et mécompréhension du fonctionnement et de l'importance du net dans notre société. Le fait de se dire qu'on peut se passer d'Internet aujourd'hui, c'est comme se dire bon bah vous avez, enfin on va vous couper l'électricité, tu vois. Pardon?
Non, je disais, c'est ne pas comprendre comment la société a évolué.
C'est ça.
Effectivement, on ne peut plus se passer d'Internet.
C'est ça. Donc, si on veut priver, si quelqu'un a commis un crime suffisamment grave pour qu'on le prive de certaines libertés, eh ben, il faut le mettre en prison, tu vois. Et à ce moment, je peux comprendre qu'on le prive de certaines libertés, qu'on lui dise, tu n'as pas le droit de faire ci ou ça. Si on n'arrive pas à ce stade de criminalité, eh ben non, on peut pas te couper Internet, pas plus qu'on peut te couper l'eau, pas plus qu'on peut te couper l'électricité. Pour moi, c'est dans ce même type de sphère. Donc oui, j'étais clairement contre cet aspect, en tout cas, de la dopie. Non, j'étais totalement amoureux des autres aspects, hein, mais c'est celui-là qui me dérangeait vraiment. Appareil connecté, une taxe de trop, titre l'informaticien. Vous savez qu'on a deux taxes qui sont en train d'être considérées pour les appareils connectés. Il y a d'une part la taxe préconisée par le rapport Lescure, dont on a parlé plusieurs fois. Et puis il y en avait une autre qui serait prélevée tous les ans, qui serait une sorte de redevance étendue à tous les appareils.
Une sorte de prolongation de la redevance actuelle.
C'est ça. Tous les appareils qui pourraient recevoir la télévision, c'est-à-dire tous les appareils aujourd'hui. Et donc, le ministère de la Culture a indiqué qu'il faudrait choisir entre les deux. Bon, les deux me paraissant, pour des raisons diverses, un petit peu injustifiées, je me dis que c'est quand même la moindre des choses qu'on n'en applique qu'une seule. Mais bon, ça serait un long débat.
Moi, je trouve ça un peu abusé, quoi.
De considérer les deux ou les deux...
Les deux taxes, quelle que soit la décision prise, je trouve que c'est encore une fois faire payer au plus grand nombre une taxe qui n'a pas lieu d'être quand on sait tous les abus et toutes les manières dont sont gérées les choses et mal gérées les choses. Enfin, je souscris pas du tout.
Tu veux dire que l'argent... Oui, l'argent qu'on paye pour ces choses-là va être...
C'est-à-dire qu'on paye déjà pour les CD, on paye pour quasiment tout. Ils nous rajoutent encore une fois une taxe supplémentaire. Qui m'explique déjà comment cette taxe elle va être utilisée, à quelle fin. Et là, après, je pourrais accepter peut-être de faire un petit effort. Mais sinon, sans pédagogie, non, je suis pas d'accord.
C'est vrai que quand on voit c'est pas exactement la même chose, mais quand on voit les frais fonctionnement d'un organisme comme la SACEM, c'est un petit peu difficile à avaler. Mais d'un autre côté, on a entendu certains organismes, la DOPI pour ne pas la nommer, évoquer l'idée d'une licence globale. Qui serait une licence, donc une taxe en quelque sorte qu'on paierait pour compenser le piratage et qui compenserait les artistes de manière équitable et qui, en quelque sorte, pas légaliserait le piratage, mais presque. Le problème de la taxe préconisée par le rapport Lescure, c'est qu'elle ne parle plus du tout de piratage, qu'elle n'a plus de rapport avec le piratage. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. Donc bon, on en avait parlé à l'époque, mais...
Moi, je pense qu'il faut aller très clairement vers la taxe annuelle. Je dis ça en tant que Suisse, hein, donc allons pour la taxe annuelle. et puis, parce que c'est comme, tout le monde le fait maintenant. Adobe, là, vous savez, ils vendent plus de licences uniques, mais ils vendent des poches annuelles. C'est un peu la tendance pour tout. Donc, faisons tout payer annuellement et tout le monde sera très content. Vu que le but, c'est de faire de l'argent, il faut qu'ils aillent au bout de leur raisonnement.
Oui, pourquoi pas, oui. Prism, j'en ai pas fait l'un des sujets principaux parce qu'on commence à en avoir pas mal entendu parler, mais il y a quand même des informations croustillantes et intéressantes. Révélation sur le Big Brother français. Il y a quelque chose, alors vous avez sûrement vu cet article du Monde hein, où on parlait de le Big Brother français, c'est l'équivalent de Prism de la NSA, voilà, les Français font pareil, c'est exactement la même chose, et quelle hypocrisie et quel machin, les Français, la France vous observe tout autant, et la DGSE et machin. Alors, comme souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses sans vraiment comprendre les détails des histoires, et c'est vraiment une chose qui me m'attriste, c'est vraiment le terme, quand on fait des approximations et quand on entend une moitié de d'histoire et on porte un jugement dessus du genre ah oui mais voilà de toute façon on les écoute tous, c'est tous des salauds et machin. C'est pour ça que j'avais passé tellement de temps à décrire Prism dans il y a deux épisodes. Et là, je vais juste dire deux ou trois petites choses à ce propos, à propos de la du Big Brother français, qui est effectivement un programme secret qui aurait été, qui existe, hein, qui a été confirmé et qui est totalement illégal. Les responsables ont utilisé un terme intéressant qui est allégal, c'est-à-dire qu'on a un organisme en France qui est la CNIL, qui gère très 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 sévèrement l'utilisation des données privées. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose d'acceptable ou que ça devrait ou que c'est nécessaire même, ou je rentre pas dans ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y a une différence de fond, en tout cas d'après ce que j'ai lu dans cet article du Monde, entre Prism et ce système. Prism collecte toutes les données et les stocke pour des analyses futures. Ce système, dont j'ai oublié le nom, je ne me souviens plus du nom du système, mais le système français de la DGSE, est un système qui collecte les métadonnées. Qu'est-ce que c'est que les métadonnées ? C'est par exemple, si demain je décroche mon téléphone et j'appelle Benoît, eh bien la DGSE aura les informations selon lesquelles mon numéro a appelé le numéro de Benoît, pas le contenu de notre conversation. De la même manière, si j'envoie un SMS à Benoît, la DGSE va avoir le numéro qui a envoyé un SMS à qui, à quel moment, etc. C'est ça les métadonnées. Pareil pour les mails, on saura quand j'ai envoyé un mail à qui. Alors évidemment, c'est une énorme quantité de données et il est tout à fait, et c'est allégal selon les termes de ce monsieur, c'est tout à fait scandaleux si ce genre de choses nous scandalise. Mais c'est très, très, très différent de ce que font les Américains avec Prism. Avec Prism, ils emmagasinent tous les contenus de toutes ces communications, tous les emails, tous les messages, toutes les informations qu'on donne à Facebook, toutes les informations qu'on envoie sur Twitter, enfin...
Ouais, mais Patrick, juste, on pourrait quand même aussi se dire qu'aujourd'hui, ils utilisent la métadonnée pour voir ton cercle de relations et faire des cercles étendus, des jolis graphiques et comme ça connecter un peu toute la France entre elles. Mais peut-être que demain, dans la mesure où il stocke aussi le fichier de conversation qu'il y aura eu entre toi et Benoît, par exemple, demain, il pourrait très bien l'utiliser, l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Il ne le stocke pas. Il ne stocke pas, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, il ne stocke pas les fichiers, justement. Il ne stocke que les métadonnées.
D'accord. Donc en fait, ils arrivent à avoir, par exemple, la durée, le poids du fichier, les choses comme ça. Donc c'est uniquement ça qu'ils vont stocker, qu'ils vont. Moi, je pense qu'on est on est un peu crédule, non? Parce que là, on parle de, tu vois ce que je veux dire, quoi, de la face cachée, de choses qu'on ne peut pas forcément dire, etc. C'est... Moi, je pense que c'est juste un enfumage, ces histoires-là.
Ce genre de raisonnement, c'est incroyablement dangereux. On parle de ce qu'on sait. On ne parle pas de ce qui pourrait peut-être être, de machin, de on ne sait pas, de il semblerait. Après, c'est plus la même conversation. Parce que si on entend dire il stocke les métadonnées et qu'on assume que donc il stocke les données, on peut partir d'une souris et en faire une montagne. Tu vois, là, on peut plus avoir de conversation rationnelle, scientifique, posée. Alors, si on veut ensuite avoir une conversation différente, qui est jusqu'où est-ce qu'on doit aller, est-ce que la DGSE stocke aussi nos données ? Très bien, on peut avoir cette conversation.
C'est une autre conversation,
mais c'est une autre conversation. Et ce qui me dérange, c'est que les gens ont entendu...
des bribes d'informations.
Des bribes d'informations sur ce scandale, qui est un scandale, hein, je dis pas le contraire, mais des bribes d'informations sur ce scandale, et on dit la France a fait la même chose que la NSA. Et ça, c'est faux, c'est totalement faux. Le fait que, par exemple, le fait que je sache que la DGSE se dit, Patrick, je sais qui il, enfin, quel numéro il appelle, quand et pour combien de temps, je me dis, bon, ça peut peut-être leur permettre de recouper D'accord. des trucs. Et ils se disent, si on a des informations sur une personne qui s'avère être un terroriste, en ayant la liste des personnes qu'il a appelées le plus souvent à quel moment, je vais peut-être pouvoir remonter sur d'autres personnes. Ça me paraît raisonnable et ça ne me paraît pas être une invasion de la vie privée. Par contre, si on me dit la NSA a dans ses stocks, ou même la DGSE a dans ses stocks, le contenu des emails que tu envoies à Benoît, ou le contenu des conversations téléphoniques, là, ça me dérange beaucoup plus.
Ouais. Juste pour alimenter un peu la discussion, ouais. Moi, je voudrais juste te rappeler deux faits historiques de la société française. Le premier, on va partir du plus ancien, c'est les fameuses écoutes téléphoniques de Mitterrand, où on sait que les services secrets français ont clairement participé à de la vraie intrusion dans de la vie privée des gens, et ce, à la demande du président de la République. Ça, c'est un petit exemple. Et le deuxième exemple, et je pense que celui-là, en tout cas pour moi, m'a beaucoup plus dérangé, même si les deux sont totalement condamnables, c'est dernièrement quand même, dernière présidence, donc sous Sarkozy, au moment où certaines affaires étaient sorties par les journalistes du Monde, où un, on leur a volé leur ordinateur portable, leurs écoutes téléphoniques pour connaître leurs sources ont tout été épluchées. Et donc, encore une fois, on s'aperçoit de quoi? Que finalement, les services secrets français utilisent toujours exactement les mêmes moyens, qu'il y ait prisme ou pas prisme, à la limite, ça, on s'en fout. Mais quasiment tous les États, à un moment donné, quand il s'agit de l'intérêt du pays, de la nation, d'un président de la République, peuvent arriver à quasiment connaître la vie d'une personne, la scanner et puis avoir tout son détail.
Et là, Johan, ce que je vais te dire, c'est que ce que tu fais est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que dans une conversation posée et rationnelle, on introduit des argumentations qui sont « de toute façon, c'est tous des salauds ». Peut-être pas tous des salauds, mais de toute façon, il y a toujours des problèmes d'écoute. Enfin, les écoutes téléphoniques de l'Élysée, qui sont évidemment très graves, qu'elles soient en 80 ou dans les années 2000, ont effectivement toujours existé. Dans les années 80, on n'avait pas besoin de prisme. Donc, c'est une sorte de méli-mélo intellectuel qui fait que on se dit ah ben regarde c'est dangereux, les gens nous écoutent,
je vois pas en fait Patrick ce qu'il y a de dangereux dans ce que je rapporte, dans la mesure où factuellement on sait que ça existe,
parce que ici on parle d'une question très très précise qui est-ce que la DGSE est en train de commettre des actes répréhensibles au vu de la morale ou de la loi, en faisant des écoutes sur la population française qui ne serait pas autorisée. Et c'est ce problème qu'on établit et qu'on essaye de comprendre. Et la question des écoutes téléphoniques de Mitterrand ou de Sarkozy n'ont pas grand-chose à voir avec ça. C'est le seul point commun, c'est qu'il y a des organismes d'État qui ont fait des écoutes. Et en plus, en l'occurrence, c'était des écoutes illégales. Ici,
d'accord. Je comprends la nuance que tu veux dire. Tu veux dire qu'en fait, d'un côté, il y a un système systématisé, global, d'une nation entière, voire même de plusieurs nations d'écoute potentielle d'un système comme PRISM. Et d'un autre côté, ponctuellement, le fait qu'on puisse cibler à travers par exemple les deux exemples que j'ai donnés, et donc qu'on puisse cibler des écoutes.
C'est même plus que ça, ouais. C'est que les écoutes dont tu parles, je connais moins bien l'affaire des journalistes du Monde, les écoutes de Mitterrand, c'était effectivement Mitterrand qui voulait savoir ce qui se passait chez des célébrités qu'il aimait bien et qui les a fait mettre sur écoute. C'est évidemment inacceptable. Si effectivement on a volé des ordinateurs portables à des journalistes qui révélaient des affaires compromettantes pour l'État, c'est évidemment inacceptable. Là, on est en train de savoir quel est le cadre dans lequel travaillent les organismes de surveillance de l'État en France. Et en mélangeant ces deux choses, on trouble la question importante qu'on est en train de se poser. Est-ce que fait la DGSE déjà? Que fait exactement la DGSE? Il faut le savoir avant de comprendre.
Dans ce cas-là, je vais reformuler dans ce cas-là ma
pensée.
Non, je ne pense pas que l'État français, on va dire, nous espionne à tous. Mais oui, je pense qu'ils ont les moyens de le faire ponctuellement auprès de qui ils veulent.
Mais bien sûr, mais encore heureux.
Je pense plus ce qui se rapproche le plus de ma pensée.
Effectivement, mais là, moi, ce que je te dirais, c'est ce qu'on disait à propos de Prism il y a 2 semaines. Encore heureux. Heureusement que l'État peut, et c'est ce que je dis à chaque fois sur toutes les affaires comme ça, à partir du moment où le cadre légal est respecté. Si le cadre légal est respecté, si on a un organisme de police, une force de police qui fait une enquête et qui a besoin de mettre sur écoute un suspect, heureusement qu'elle peut le faire. Alors ensuite, le fait qu'il y ait des abus et que le président dise « Ah ben moi, je veux mettre sur écoute Dalida parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie et j'ai pas, ça me fait chier de descendre acheter People Magazine, Closer. » Bon, effectivement, ça c'est le répréhensible, mais heureusement que l'État et que les organismes de surveillance peuvent mettre les gens sur écoute. Là, la grande question, c'est est-ce que la DGSE a outrepassé ses droits? Et s'ils le font, est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Comment ils le font? C'est en fait, merci en tout cas, Johan, parce que tu m'as aidé à formuler exactement ma pensée. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre ce que fait la DGSE pour pouvoir savoir si c'est bien ou pas. Et quand on dit la DGSE fait la même chose que la NSA, c'est faux. Enfin, d'après ce que j'ai lu encore une fois, hein, mais le fait de stocker les métadonnées n'est pas du tout la même chose que de stocker le contenu des messages. Donc, il y a une approximation qui, pour moi, est fausse et n'est pas constructive. Bon, Benoît, t'es resté hyper, hyper silencieux, là.
Quand je suis en dehors de ma zone de confort et de surtout ces trucs-là, c'est vrai, moi, je suis... Ça me touche pas beaucoup. Je suis entièrement d'accord, effectivement, que c'est une histoire de cadre légal, que si on le dépasse, les gens doivent aller en prison. Le coup de allégal, il me fait bien rire. Je crois que je vais le ressortir à l'occasion.
Oui, ça, c'est quand même fort, il faut avouer.
On se choque que l'État a finalement le monopole de la violence, mais en même temps, on en a besoin. Et c'est une discussion qui est éternelle, mais et qui est saine d'avoir. Hein, mais
ouais. Bon, plus d'infos à suivre très certainement. On va faire l'impasse sur la suite de ce qui est arrivé à notre pauvre Snowden qui est encore hébergé dans l'aéroport de... comment il s'appelle?
Tu pourras revenir dans 2 ou 3 épisodes, il sera encore là, quoi.
Encore que plusieurs pays d'Amérique du Sud lui ont offert l'asile, donc que la France a rejeté d'ailleurs. Sujet suivant. Twitter obligé de fournir les données des utilisateurs à la justice à propos du fameux hashtag un bon juif. Vous vous en souvenez, on en avait parlé il y a quelque temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Le jugement avait déjà été rendu. Là, il a été confirmé. Et donc, Twitter est obligé de fournir les données des utilisateurs qui ont participé à ce hashtag de très mauvais goût suite à la plainte de l'Union des étudiants juifs de France, de SOS Racisme et du Mouvement contre le racisme, le MRAP, quoi. Bref, il y avait tout un tas d'organismes qui avaient assigné Twitter en justice. Et donc, Twitter est obligé de fournir ces informations sur les personnes qui ont participé à ce hashtag. Et la raison pour laquelle j'en reparle là, à l'occasion de cette confirmation, c'est parce que je trouve que ça colle bien avec ce sujet dont on vient de parler très longuement sur Prism et sur ce que fait la DGSE. Et le fait que j'aime toujours prendre le contre-pied des gens pour essayer de dire aux gens et de les obliger à considérer de plusieurs manières différentes le même sujet. Je l'avais fait à l'époque, je vais le refaire. A priori, on se dit le fait de devoir donner les noms des personnes qui ont fait des plaisanteries qui sont limite de l'incitation à la haine raciale d'un tel mauvais goût, on pourrait dire c'est une bonne chose. En France, il y a une loi. L'incitation à la haine raciale est punie par la loi. Il faut la respecter. Et une société américaine n'a pas à se soustraire à la loi française. particulièrement quand les utilisateurs qui font usage de son service sont français. Là, si on fait un discours un petit peu militant, on peut tout à fait dire ça. Le problème, c'est que si, et c'est là que j'amène l'éclairage un petit peu autre sur ce sujet, si Twitter est obligé de fournir les noms des données des utilisateurs quand une décision de justice est rendue, on aura bien du mal à soutenir Twitter quand ils vont essayer de refuser de se soustraire à une même décision dans un pays comme, au hasard, la Chine, qui demandera les données utilisateurs, les noms des utilisateurs qui ont participé à un hashtag sur la liberté de la presse, par exemple. Donc, ce genre d'argument est toujours à mettre en relation avec différents cas de figure. Twitter est l'un des organismes qui combat le plus cette omniprésence de la NSA et de Prism, par exemple. Donc, ils font autant qu'ils peuvent, ils fournissent le minimum d'informations à l'État, etc., toujours pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Et on en vient à un problème qui est essentiel dans tous ces débats, c'est que les principes, on ne peut pas les soutenir que quand ils nous arrangent. Donc, en l'occurrence, si on se dit que Twitter devrait protéger la vie privée de ses utilisateurs, on devrait se dire qu'il est normal qu'il ne livre pas les informations des utilisateurs qui ont participé au hashtag Un Bon Juif et qui ont dit ces choses ignobles. Et on, du coup, on arrive à ce paradoxe où on se dit Twitter devrait suivre, être compatible avec la loi française, en particulier avec les utilisateurs français. Et en même temps, on se dit Twitter doit protéger la vie privée de ses utilisateurs. C'est un problème auquel je n'ai pas vraiment de réponse, mais qui est très certainement intéressant à considérer comme ça, plutôt que de foncer systématiquement dans la même direction en se disant, en analysant pas la situation, en se disant, voilà, ouais, moi j'ai écouté un truc qui me convient. J'écoute, c'est ce truc
Un truc où je suis pas forcément d'accord avec toi, où je sais pas si tu prends cet angle-là.
Quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, c'est bien Johan tout à l'heure, maintenant Benoît.
J'ai été
patient, mais je suis pas d'accord non plus.
Ok, allez-y.
C'est très pragmatique. Hein, je vous laisse la discussion plus profonde. Okay. Mais c'est simplement qu'une société, une entreprise a le droit d'avoir des opinions politiques. Je pense à une vision peut-être un peu républicaine, laïque des sociétés. Typiquement, je prends l'exemple de Google qui était contre l'interdiction du mariage gay en Californie. Toi, position éminemment politique, qui sont tout à fait libres d'avoir. Et donc, ça te permet en tant que société de dire, eh bien voilà, quand c'est dans le cadre d'un état de droit que je reconnais, que je trouve pas dictatorial, eh bien, je vais le faire. Et si j'estime que ça va à l'encontre de mes règles éthiques, eh bien, je vais pas le faire et j'irai devant les tribunaux si nécessaire pour défendre mon point de vue.
Donc, c'est deux choses différentes, Benoît. Là, d'une part, le fait d'être contre l'interdiction du mariage homosexuel, c'était juste ils ont exprimé une opinion et ils ont soutenu la loi, mais ils ont pas fait quelque chose d'illégal. Ils ont juste dit, nous, on aimerait bien que le mariage homosexuel soit voté. D'autre part, là, en l'occurrence, Twitter, une fois que la décision de justice a été rendue et confirmée, ils ont dit, bon, bah, ok, on doit le faire. Donc, ils sont exécutés. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui observent la situation et qui disent, c'est scandaleux que Twitter ne réponde pas à la justice quand la justice demande a rendu tel et tel jugement, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois parce que la justice, elle ne rendra peut-être pas des jugements avec lesquels ils sont d'accord dans des pays un petit peu plus dictatoriaux.
Oui, d'accord, Twitter peut très bien décider de dire, voilà, dans certains pays, je vais suivre, dans d'autres pas. Je veux dire, là, toi,
oui,
tu mets
d'accord, je comprends.
Tu mets un peu noir et blanc et c'est là où
moi,
je dis.
Moi, c'est exactement à ça que je voulais aussi en venir, Benoît. C'est-à-dire que, je m'appelle Johan Cohen, juif de religion et donc un peu touché aussi par cette affaire-là. Quand on lit sur Twitter un bon juif, c'est un juif mort, c'est clairement pas la même chose que d'essayer de le comparer à la possibilité que l'État chinois puisse vouloir museler la liberté d'expression, même si ce sont deux choses graves de la même manière, comme le précise Benoît. Je pense que on répond pas forcément, c'est pas noir ou blanc, on répond pas forcément dans les deux cas de la même manière. Là où je suis un peu aussi de enfin, là où je suis un peu plus, on va dire, mitigé sur ce coup-là, c'est que ça me semble être difficile. Déjà, je vois pas ce que Twitter va pouvoir donner comme information. C'est si j'ai envie demain de prendre le nom de Patrick Béja et d'écrire des tweets en ton nom, je pourrais. Donc, ils vont fournir quoi? Les adresses IP? Même une adresse IP pour quelqu'un de vraiment mal intentionné.
Les noms, ouais.
Ouais, mais tu vois ce que je veux dire?
Non, mais c'est-à-dire je crois que c'est plus une question de principe, en fait.
Ouais, je pense que voilà, sur la simple, la seule raison de principe, effectivement, la décision de justice, il fallait qu'elle aille dans ce sens. Et Twitter, pour ce sujet-là, et il y en a eu d'autres, hein, qui soient notamment sur les homosexuels, qui soient notamment sur les arabes, que ce soit notamment sur les noirs, il y a eu exactement ces mêmes hashtags totalement ignobles qui ont pollué tout Twitter. Donc je trouve,
enfin, le
un bien,
bon juif, il a quand même fait un petit peu plus de bruit que les autres.
Mais toujours un peu, ouais. Dès qu'il y a juif, ça fait un peu plus de bruit, et ça, c'est à la limite, c'est un autre débat encore.
Ouais.
Mais, pour revenir vraiment à ça, c'est bien de savoir que, voilà, ça ne reste pas impuni, et qu'une personne qui va écrire des insanités sur Twitter, qu'elle sache que, voilà, à un moment donné, ben, on peut la retrouver, et j'espère que les personnes qui ont écrit ça auront, au-delà d'une réprimande, mais un travail d'intérêt général. Je pense que voilà, ça peut valoir le coup qu'ils assistent à 4 heures de cours de moralité donnés dans une université, ça serait parfait.
C'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est parce que, bon, on les retrouve. Tu vois, dans un cas, on les retrouve, on les pend. C'est plus embêtant qu'on les retrouve, on leur tape sur les doigts, c'est ça. Ouais.
Effectivement. Non, mais vous avez raison. C'est sûr qu'on pourrait se dire, pour résumer finalement votre argument, on peut se dire, bon, Twitter en France, ils peuvent quand même répondre. Et Twitter en Chine, ils pourraient se dire non. Enfin bon, en l'occurrence, Twitter n'est pas forcément utilisé en Chine, mais on pourrait dire dans un pays où les conséquences d'une réponse à une demande judiciaire seraient extrêmement graves, on pourrait accepter que Twitter ne réponde pas. Je comprends ce que vous dites. En même temps, on voit ça en tant que Français, des lois comme les lois contre l'incitation à la haine raciale, sont assez difficiles à comprendre dans d'autres pays. Hein. Il y a des choses où des pays où la liberté d'expression est sacro-sainte et où on se dit même quelque chose comme ça, c'est scandaleux. En Angleterre, par exemple, aux États-Unis, la liberté d'expression est une valeur qui
ça
est
fait partie des
extrêmement importante.
Fait,
ouais. Donc même le fait de se dire j'ai pas le droit, oui, je suis un con si je dis un bon juif est un juif mort, mais j'ai quand même le droit de le dire. C'est le principe de la démocratie, de se dire on est obligé d'accepter que les gens puissent dire des choses qui ne nous plaisent pas. Et bon, c'est un autre type de société, hein. En l'occurrence, moi, ayant été élevé dans une culture française, ça me choque énormément ce genre d'incitation à la haine raciale. Mais il faut aussi comprendre que c'est justement le problème. Dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres valeurs et donc d'autres jugements sur ces
oui, mais généralement, dans les pays où il y a d'autres valeurs, comme tu dis, je suis sûr que de brûler une Bible, un Coran ou une Torah, ça serait clairement réprimandé de la même manière. Donc, finalement...
Oh, je sais pas. Hein. Le fait de brûler une Bible aux États-Unis, tu risques de te faire taper dessus par les abrutis du coin. Mais par contre, je suis pas sûr qu'elle a loi que légalement, on puisse faire quoi que ce soit contre toi.
Oh, bon, peut-être l'exemple est mal choisi, mais généralement, il y a d'autres libertés qui sont tout aussi surveillées et réprimées quand elles sont un peu outrepassées. C'est dur d'essayer de mettre face à face des valeurs morales de société et notamment des décisions de justice. C'est dur à comparer. Un peu comme toi, hein, élevé au sein de la République française, je comprends et à la limite, j'attendais que cette décision de justice soit rendue. Après, voilà, qu'aux États-Unis, ben, ils en aient rien à foutre, ben, à la limite, c'est leur problème. Et qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, pas de souci, quoi. Mais moi, quand j'ai vu dans les tendances françaises ce genre de choses et que t'appuies sur le hashtag et que tu lis des centaines de messages équivalents, ben, à la limite, j'aurais préféré ne pas les voir, quoi.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais, on pourrait faire le débat pendant des heures, c'est sûr. J'aurais préféré ne pas les voir aussi, mais est-ce qu'on peut légitimement se poser la question, la démocratie, c'est pas de...
Moi, j'ai pas dit, ils ont pas le droit de le dire, hein.
Ouais.
C'est pas du tout ce que je suis en train
de dire. Pourtant, la loi française, même la loi française,
si la loi française
dit qu'on n'a pas le droit de dire ce genre de choses.
Tout à fait.
Bon, bref.
Je suis partisan de chacun a le droit de dire ce qu'il a envie, etc. Mais à la limite, l'espace public tel que les Twitter et là, c'est un peu plus dérangeant. Et tu sais, tu as pris l'exemple de l'Angleterre. Souviens-toi que cette fameuse place dans laquelle il y avait des gens qui pouvaient venir faire des grands discours, ils ont interdit à l'époque de l'après 2001 tous les discours faits par des personnes qui incitaient à la haine. Oui. Donc même dans ces pays-là, ils ont quand même restreint quand même le champ de l'espace de liberté.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis content. Vous m'êtes rentré dedans, c'était argumenté, je suis satisfait. Et on va pouvoir arriver doucement vers la fin de l'épisode. On va quand même dire que faire un petit plaisir aux utilisateurs de Windows Phone 8, Path, Vine, Flipboard et Hipstamatic arrivent sur Windows Phone 8 très bientôt. On n'a toujours pas de signe d'Instagram, mais ça devrait pas trop tarder, on l'espère. Et dire aussi que le Lumia 1020 arrive bientôt, lui aussi, avec, tenez-vous bien, un appareil photo PureView qui a combien, 13 millions de pixels?
Oui, c'est quelque chose d'hallucinant. J'ai cru même voir une quarantaine, moi.
Oui, pardon, c'est 38 millions de pixels. Tu vois, même avec les 13, j'étais loin du compte. Mm-hmm. C'est impressionnant, effectivement. Mais c'est l'appareil photo, enfin l'objectif qui fait cette taille, et on pourra avoir des images réduites évidemment pour partager, etc. Mais bon, l'image plein écran, enfin pleine résolution, c'est 38 millions de pixels. Espérons qu'elles seront jolies.
C'est clair.
Ouais, c'est intéressant. Là, il faudrait des spécialistes. Je me demandais justement en achetant dernièrement un appareil qui finalement était le HTC One que j'aime bien, mais il disait ouais, on calcule plus les pixels. Enfin, HTC a décidé de plus communiquer là-dessus parce qu'ils disent on arrive à un stade.
Ça sert plus à rien, ouais.
C'est comme la vitesse du processeur, tu sais. Au bout d'un moment, t'es là, on nous disait il y a 5 ans 5 millions, c'est génial, il y a tout ce qu'il te faut. Et maintenant on dit t'as 40 millions. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait la différence, toi? Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que ça change la chaleur des couleurs? Est-ce que tu vois?
Bah c'est la finesse, hein, quand tu veux. Oui, je sais pas. Enfin, en l'occurrence, c'est un 41 mégapixels pour dire les choses comme il faut. Voilà, on va faire notre travail de journaliste. À vrai dire, ce qui va le plus changer, c'est la taille de l'objectif. En l'occurrence, sur cet appareil, sur le 1020, l'objectif est bon, toujours évidemment même pas la taille d'un appareil photo dédié, mais il est beaucoup plus grand que sur les autres téléphones, et ça, à mon avis, ça va donner beaucoup plus de clarté, des images beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes en conditions de plus basse luminosité, etc.
Mais ça, c'est bien. Franchement, je trouve bien que les téléphones commencent à se différencier un peu sur de hardware comme ça. Ouais. Toi, typiquement, tout le monde ne va pas aller dans un appareil plus
comme
grand,
ça, ouais.
Etc. Et c'est bien. Là, on retrouve un petit peu de variété. J'ai l'impression qu'enfin, on a un petit peu. Donc, bravo, bravo.
Ouais. Ouais, bon, moi je pense que c'est un appareil quand même qui est pour certains utilisateurs spécifiquement, mais bon.
Oui, absolument, ouais.
Dernière news pour clore cet épisode, le vénérable PC World, le magazine américain sur le PC, tire sa révérence. Évidemment, il a fait la transition en format électronique sur le net il y a bien longtemps. Mais PC World va disparaître des stands. Il n'existera plus en version imprimée, en version arbre mort, comme le disent certains. C'est un signe de plus que la presse est en train de passer l'arme à gauche, on va dire, qu'ils doivent faire la transition vers le net.
Et qu'on vieillit.
Et qu'on vieillit aussi.
Parce que c'est, non, je veux dire, voilà, si on a plus de 30 ans, PC World, c'était quand même quelque chose, je veux dire.
Ah oui, c'est sûr, oui.
Mais plus depuis, voilà, moi je ne savais même pas que ça existait encore, donc tu me le rappelles, j'étais sûr que c'était mort depuis longtemps.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoutez, on arrive à la fin de l'émission, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'occasion pour vous deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les gens veulent plus de débatteurs tech qui les contredisent efficacement. Oui, où est-ce qu'ils vont?
Alors, pour nous retrouver Niptech, hein, niptech.com, on va faire un petit plug. On profite pour la petite dernière des émissions de la famille Niptech, la petite première aussi, qui s'appelle NipDev. S'il y a des gens qui sont développeurs, qui veulent comprendre un petit peu sur des sujets comme qu'est-ce que c'est des API, pourquoi on utilise un langage comme Scala, ouais. des choses comme
S'ils
ça.
S'ils sont développeurs, j'espère qu'ils savent déjà ce que c'est qu'une API quand même, mais...
Ouais, mais tu sais, des fois, tu travailles, par exemple, tu fais de la virtualisation, tu travailles sur un certain domaine, et tu, à la longue, tu sais plus vraiment, en fait.
C'est pas faux, ouais.
Donc, c'est une très bonne remise à niveau, et typiquement pour quelqu'un comme moi qui, je code encore un peu, mais enfin, moins qu'à mes heures glorieuses, et ça me fait vraiment, c'est une bonne remise à niveau, un joli succès. Donc voilà, c'était le petit plug pour eux, NipDev. Et sinon, pour les tweets, alors, s'il vous plaît, pas à caractère injurieux, at Bekurdi.
Je dirais pareil pour les tweets, pas à caractère injurieux, et c'est @JohanCohen.
Super, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est @NotPatrick, vous le savez, et vous pouvez retrouver cette émission, venir nous laisser des commentaires sur le blog de l'émission sur frenchspin.com. Vous pouvez, c'est frenchspin comme français et spin comme tournoiement. Hein, vous le savez, ça veut dire la tournure française. Bon, bref, vous pouvez aussi trouver l'émission Positron, dont le deuxième épisode est sorti la semaine dernière. On a encore plein de choses super cool à vous recommander.
Des
produits. Bah, écoute, oui, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Les gens sont contents, les gens apprécient. Et l'idée de l'émission, qui était de donner envie aux gens de découvrir des choses, de découvrir des films, des séries, des BD, de la musique même. Est plutôt réussi. Tout le monde dit que ça leur donne vraiment envie d'aller essayer ces trucs. Donc voilà, le deuxième épisode s'appelle « S'emmerder, c'est pour les cons ». Donc ça parle de soi-même.
On l'utilisera comme quote un jour ou l'autre dans Niptech, comme citation. J'aime beaucoup.
Mais écoute, c'est vrai, hein, franchement, oui. Ça part d'un constat qui est aujourd'hui, on a parlé plusieurs fois de l'ancien temps d'avant l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, pour réussir à s'emmerder, faut vraiment le faire exprès, quoi. Et on a tellement de littérature, de séries, de films, de BD, de musique disponibles juste en claquant des doigts pour réussir à s'ennuyer. Je sais pas qui y arrive, quoi. Donc, Positron réussit à vous donner envie de découvrir plein de choses dans ces domaines. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Je suis sûr qu'elle vous plaira, cette émission. S'emmerder, c'est pour les cons. Dernière chose à vous dire quand même avant de se séparer, on risque de se séparer, chers auditeurs, pour un petit peu plus longtemps que d'habitude. Le prochain épisode risque de ne pas arriver dans 2 semaines comme toujours, parce que je serai un tout petit peu occupé.
On en profite pour te féliciter d'ailleurs.
Ah bah merci. Ceux qui ont écouté d'autres émissions que je produis savent peut-être déjà que je me marie dans 2 semaines, donc je serai encore fraîchement marié. En plein voyage, en pleine euphorie. Donc, je vais peut-être pas enregistrer un nouvel épisode du Rendez-vous Tech immédiatement pour retomber dans des questions déprimantes de trolls, d'écoute téléphonique. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des choses super enthousiasmantes de tech, mais c'est le milieu de l'été. On va peut-être laisser passer un petit peu de temps. On reviendra très certainement dans un mois avec un nouvel épisode. Et je serai à ce moment Monsieur Béja. Bon, ok, je suis déjà Monsieur Béja, mais je veux dire, je serai Monsieur Béja marié à Madame Béja. Donc, voilà.
Donc, un nouveau Patrick.
Un nouveau Patrick, exactement.
Eh ben, bravo. Félicitations. Ça fait
merci.
Plaisir.
Oh, ben, pas encore. Il reste 2 semaines, hein. On sait pas ce qui veut se passer. Elle peut changer d'avis. Elle peut se rendre compte. Tu vois, elle peut se dire, mais attends, mais c'est qui
cet énergumène qui passe ses soirées à faire des podcasts. C'est ça.
Donc, on sait que si on t'entend dans 2 semaines, on pose pas de questions.
Ouais, voilà, exactement. S'il y a un épisode dans 2 semaines, surtout, personne ne pose de questions. Faites comme si de rien était. On en parlait tout à l'heure de mes podcasts, et je lui disais, bon, je vais peut-être pas faire un épisode dans 2 semaines. Il y a quelques temps, je l'aurais peut-être fait, hein, mais là, j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme quand j'ai arrêté mes podcasts anglophones, notamment. Je me suis dit, il faut pas que je sois aussi psycho-podcasteur, faut pas que je tienne absolument à avoir un épisode à chaque fois. En rater un de temps en temps, c'est peut-être possible. Donc voilà, j'essaye d'être moins complètement obsessif-compulsif. Je suis moins psycho-podcasteur, et du coup, je serai peut-être un petit peu plus marié. Voilà. Donc, ce qui est pas mal non plus. Ouais, moi, je suis très content et très excité. Je sais pas si on peut l'entendre, mais je souris depuis qu'on a commencé à parler de tout ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais de grosses bises à tous. Je fais une bise particulière à tous ceux des auditeurs qui se marient aussi pendant ce mois de juillet ou au mois d'août. Allez, soyons larges. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Et puis, on vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous deux d'avoir participé et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ah bah, j'espère que ça a enregistré parce que c'est moi, ça n'a pas enregistré.
Oula.
Waouh.
Tu me fais des attaques cardiaques là. Pourquoi ouais, ça n'a pas enregistré si c'est bon hein, chez moi. Mais...
Ouais, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record, j'ai appuyé sur hijack et j'ai pas appuyé sur le record.